La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous pour parler football. Nous avons envie de vous entendre maintenant que l'on connaît la liste des qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. 24 équipes pour la première fois, ce qui permet à trois nouveaux venus de faire leur début à la CAN. Le Burundi, la Mauritanie et Madagascar, quelles sont leurs chances? Il y a eu aussi quelques déceptions. Le Burkina et le Gabon ne sont pas de la partie. Comment expliquez-vous l'élimination de ces grandes équipes? Et puis on retrouve quand même de grands pays du foot africain. Quel est votre favori? Appelez-nous, écrivez-nous, on en parle pendant les 20 prochaines minutes. Et on accueille tout de suite Jean-Marie qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous des chances de votre équipe? La qualification a été un peu compliquée pour la RDC.
Ah oui, on a l'habitude de ces qualifications à l'arraché dans notre pays parce que les préparations sont toujours en dents de scie. Mais bon, la qualification est là. Les groupes n'étaient pas aussi consistants que quand on a moins de groupes, moins d'équipes à qualifier. Nous avions un groupe qui était à notre portée, mais bon... On a dû se qualifier juste au dernier match. Je pense que c'est un message pour les dirigeants pour qu'ils préparent bien l'équipe. Notre équipe ne prépare pas toujours très bien. Et puis on compte souvent sur quelques vieux joueurs qui jouent sous le vieux continent, quelques vétérans qui sont dans nos grandes équipes ici. Et puis on croit qu'avec ça, on va faire un bon chemin.
Il y a eu aussi quelques retours remarqués hein, sur Facebook. Stéphane nous écrit que la RDC est favorite, selon lui, grâce au retour de Trésor Mputu, qui était absent de la sélection depuis 5 ans. Vous pensez qu'il peut faire la différence?
Un seul joueur ne peut pas faire à lui tout seul la différence dans ces grandes compétitions. Je crois que la prochaine compétition qui va se passer en Égypte, bon, ça va nous rappeler des bons souvenirs à nous les Congolais, parce qu'en 1974, le Congo a gagné la Coupe d'Afrique en Égypte, avec un certain Ndaye, qui est mort cette année, malheureusement. Bon, mais moi, pour moi, les favoris, c'est peut-être le Sénégal, le Nigeria, peut-être le Ghana. J'aime bien l'équipe de la Guinée Conakry qui revient aussi, c'est toujours une belle équipe. Mais le Congo a des armes, si on se prépare bien, on peut aller titiller les premières places. Mais si on fait les préparations que nous avons l'habitude de faire ici, toutes les préparations bâclées, il ne faudrait pas qu'on croit à un miracle, même si Mputu Trésor peut jouer.
Donc une meilleure préparation et puis quand même un bon signe, hein, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez Jean-Marie, puisque votre pays s'était imposé justement lors d'une CAN organisée en Égypte. Ça fait longtemps, mais bon, c'est quand même un signe à prendre, c'est toujours bon à prendre. Autre commentaire sur Facebook de Moïse, qui est catégorique, qui nous dit « Cette nouvelle CAN va changer la hiérarchie du football africain ». Bonjour Eugène.
Bonjour.
Vous nous appelez du Burundi, qui est qualifié pour la toute première fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec Moïse? Cette CAN à 24 équipes va tout changer?
J'ai l'impression que cette CAN à 24 équipes va changer parce que ça a permis la participation de nouvelles équipes dans le Burundi, mon pays, qui participe pour la première fois. On a vu des surprises où des joueurs de renom international, notamment Aubameyang, ont été éliminés. Donc je pense que c'est une CAN qui va changer complètement du côté structure de cette compétition.
Et alors qu'est-ce que vous pensez des chances de votre équipe qui participe pour la première fois à la CAN? Parce que pour l'instant, le Burundi a fait quand même un beau parcours. Hein. Non seulement les Hirondelles sont qualifiées, mais en plus, le groupe n'a pas été vaincu, pas une seule défaite en phase éliminatoire.
Justement, mon pays participe pour la première fois dans cette compétition. On pourrait dire qu'elle n'a pas de chance d'arriver plus loin, mais c'est une équipe qui est constituée par des jeunes qui évoluent pour la plupart dans les championnats en Europe, en Afrique. Ils ont le tact sur le jeu. Je pense que c'est une équipe qui pourra faire des miracles et arriver le plus loin possible, disons quart de finale.
Merci beaucoup Eugène d'avoir été avec nous et bonne chance au Burundi donc qui participera en juin et juillet prochain pour la première fois à la CAN. Nous sommes en ligne maintenant avec Armand qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour.
Bonjour Anne. Bonjour Anne.
Cela fait 9 ans que votre pays n'avait pas joué la CAN. Vous avez confiance dans cette équipe?
Oui, il y a de quoi avoir confiance en cette équipe, parce que il faut comprendre que par le passé, les dirigeants de la fédération ont préféré leur lutte intestine à la gestion de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons une équipe plus ou moins stable, nous avons une volonté politique d'accompagner le sport, et nous avons le championnat national qui est relancé. Ce sont des atouts qui peuvent permettre aux écureuils de ne pas faire figuration dans cette CAN qui vient. Et c'est vrai, on ne va pas leur demander de miracles, mais s'ils peuvent quand même déjà passer le premier tour, ce serait déjà beaucoup pour nous, et nous avons confiance que le peu de temps qui nous reste avant la CAN va permettre de mettre les bouchées doubles pour faire avancer cette équipe.
Surtout que d'ici au mois de juin, les écureuils vont récupérer un certain nombre de joueurs qui sont blessés. C'est une bonne nouvelle selon vous?
Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, forcément. Il faut reconnaître que même ces gens qui vont étoffer l'équipe ont de la jeunesse. Et la jeunesse dans une équipe de foot, c'est aussi un atout. Et nous pensons quand même que cette fois-ci, comme dit le président de la République, nous allons révéler une fois encore le Bénin au monde, à nous-mêmes et au monde, par notre foot.
Mais on verra tout ça donc à partir du mois de juin prochain, donc avec le coup d'envoi de la CAN. Merci beaucoup Armand de nous avoir appelé de Cotonou. Direction maintenant le Burkina Faso. Bonjour Mohamedou. Mohamedou, bonjour. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous? On essaiera de rappeler un petit peu plus tard pour parler du Burkina quand même, qui n'a pas réussi à se qualifier. Et c'était une grosse surprise. Nous sommes en ligne pour l'instant avec Aymar qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Anne.
Sans surprise, hein, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. On l'attendait. Qu'est-ce que vous pensez de cette phase éliminatoire qui s'est déroulée assez facilement pour la Côte d'Ivoire?
Oui, assez facilement, d'autant plus que je pense, on peut le dire, hein, la poule était vraiment taillée à la mesure de la Côte d'Ivoire. N'eût été la Guinée qui a voulu un peu bousculer les choses. Je pense que les choses se sont parfaitement déroulées pour la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée, on peut le dire, haut les mains. Mais le plus dur, je pense, reste à venir, parce que dans quelques mois, ce sera le début de la CAN. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, hein, Anne, elle est beaucoup jeune.
Oui, elle a été renouvelée complètement ces dernières années. Et la relève est assurée, selon vous?
Oui, selon moi, la relève est assurée. Parce que, voyez-vous, quand vous avez un jeune homme comme Nicolas Pépé qui fait les beaux jours de Lille en France, grâce auquel, aujourd'hui, Lille est, je crois, deuxième du championnat français, ce n'est pas rien. À côté de lui, Wifriza et aussi Maxwell Cornet de Lyon, ce sont vraiment des jeunes hommes qui vont vraiment, je pense, faire parler d'eux à cette prochaine CAN. À côté d'eux, il faut aussi, il ne faut pas oublier les anciens qui vont jouer, selon moi, le rôle d'encadreur. Je vais citer entre autres Gervinho, et Serge Aurier et le défenseur du Manchester, Eric Bailly. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire aura quand même son mot à dire lors de cette CAN. La Côte d'Ivoire a toujours été favori de cette CAN. Je pense qu'elle garde toujours son statut, mais cette fois-ci, il faut être un peu modeste.
Et alors, quelles sont les autres équipes à surveiller pour la Côte d'Ivoire?
Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être beaucoup modeste, parce qu'il y a des équipes qui sont vraiment qui ont vraiment des collectifs bien aguerris, tels que le Sénégal, qui, depuis un bon moment, titille les sommets. Il faut parler aussi, il ne faut pas mettre de côté l'équipe organisatrice de ce tournoi, l'Égypte. Voyez-vous, cette équipe, à chaque fois qu'elle organise le tournoi, elle fait tout pour arriver loin. Avec son fer de lance Mohamed Salah, je pense que cette équipe de l'Égypte est vraiment redoutable, surtout à domicile. Vraiment, c'est l'équipe qui va falloir vraiment surveiller de près. À côté de cette équipe, je l'ai dit plus précédemment, tout à l'heure, j'ai parlé un peu du Sénégal. Il faut aussi qu'on parle un tout petit peu aussi de la Guinée. Vraiment la Guinée qui produit du beau football.
Et qui pourrait aussi faire la différence, si je comprends bien. Merci beaucoup, Aymar, d'avoir été avec nous. Vous parliez à l'instant du Sénégal et de l'importance de cette équipe et des chances qu'elle pourrait avoir dans cette prochaine CAN. On va aller justement au Sénégal pour rejoindre Ibrahim à Dakar. Bonjour, Ibrahim.
Oui, bonjour, Anne. Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Et vous-même?
Bienvenue à Dakar.
Mais je vous remercie. Tout le parcours du Sénégal en phase éliminatoire était presque parfait. Vous êtes confiant pour la suite?
Oui, presque parfait, oui. Mais justement, il faut se méfier de cette perfection. et prendre les choses au sérieux et se dire, parce que nous avons toujours eu une équipe qui a titillé les sommets, mais il y a eu un manque de cohérence ou alors un excès de confiance qui a fait que nous avons souvent échoué au pied du podium. Et c'est qu'il faut que cette fois-ci, il faudrait que toutes les mesures soient prises pour mieux préparer cette équipe et éviter des disputes internes et vraiment qu'il y ait un bloc autour de cette équipe pour la booster. Nous avons les arguments, hein. Nous avons une équipe qui a une moyenne d'âge de 25 ans et je pense que c'est l'une des plus jeunes. Elle est talentueuse. Elle est le plus produit du Sénégal et je pense qu'on peut quand même faire qu'on peut valoir, on a des armes pour faire valoir.
Parmi les autres favoris, il y a aussi l'Égypte. Plusieurs auditeurs nous en parlent sur les réseaux sociaux. Aymar en parlait aussi à l'instant. L'Égypte, 7 fois vainqueur, et puis en plus la compétition se déroulera dans le pays. Les pharaons sont des adversaires sérieux selon vous, Ibrahim ?
Oui, c'est toutes les équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Hein. À partir du moment où on est arrivé à se qualifier, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes doivent être prises au sérieux. Particulièrement l'Égypte, d'ailleurs, parce qu'elle a l'avantage du terrain. Mais, nonobstant cela, je pense que nous avons, que le pays comme le Mali, comme la Guinée, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, sont des gens qui peuvent défier l'équipe et l'Égypte et même la braver. N'oubliez pas que nous avons été l'un des premiers pays, le Sénégal, à battre l'Égypte en match d'ouverture. Donc, au temps des Bokandé et autres. Donc, c'est des choses que l'on peut rééditer. Donc, ce n'est pas la foudre de guerre qu'on brandit. Non. On peut, la Guinée, le Sénégal, le Mali sont des équipes qui peuvent, la Côte d'Ivoire, qui peuvent vraiment battre cette équipe-là. Et je pense qu'il suffit simplement d'y croire et d'avoir une cohérence, une cohésion et un bloc autour de l'équipe.
Voilà. Donc, l'Égypte, un adversaire sérieux, mais pas imbattable. Merci beaucoup, Ibrahim, d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très bonne journée à Dakar. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour, Annie.
Vous nous appelez de Libreville et là, j'imagine que l'ambiance était nettement moins positive. Vous avez été surpris par l'élimination du Gabon ?
En ce qui me concerne, je suis un peu froid. Je ne suis pas surpris de la défaite parce que si nous avons fait un match nul contre le Burundi à domicile, bon, on ne ferait pas mieux en ce qui me concerne au match retour. Donc pour moi, je ne suis pas surpris de la défaite et de l'élimination. Voilà. Parce que depuis plusieurs années, le Gabon n'a pas une équipe nationale performante. C'est vrai qu'on a un très grand joueur qui est balayant, mais il ne suffit pas. Le football, c'est un sport collectif. Il faut 11 joueurs compétitifs et pas des moindres. Or, en ce moment, nous avons des joueurs qui ont des prestations en dents de scie. Et Koulemanga qui joue pratiquement pas en Angleterre. Pas mal de jeunes là qui sont des professionnels, soi-disant, pour servir ça comme ça, et qui ne sont pas des joueurs compétitifs. À base de ça, on peut faire une équipe qui peut se qualifier pour la CAN. Voilà.
Est-ce que le Gabon paye les tensions des derniers mois qu'il y a eu avec la fédération, les tensions au sein de l'équipe quand même ? C'est pas une très bonne passe pour le football gabonais.
Oui, mais ce n'est qu'un maillon, mais il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments. Regardez le championnat. L'année dernière, il y a eu combien de joueurs de championnat ? C'était pas un championnat compétitif. Et mieux encore, lorsqu'on démarre le championnat à peine il y a quelques journées, dont les joueurs n'ont pas suffisamment de compétition pour tenir les jambes.
Oui, donc il aurait fallu jouer davantage et davantage de préparation. Merci beaucoup Patrick d'avoir été en ligne avec nous. La ligne n'était pas très bonne, mais j'espère que nos auditeurs ont pu suivre quand même et partager votre avis concernant votre équipe et qui n'était pas tout à fait prête, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquiez. Direction la Mauritanie à présent. Bonjour Abou.
Oui, bonjour.
La Mauritanie, c'est l'une des surprises de ces éliminatoires, qualifiées pour la première fois pour participer à une CAN. Quelles sont les chances des Mourabitoun ?
Bon, d'abord, c'était une surprise agréable pour le peuple mauritanien parce que c'est l'un des événements majeurs de ces dernières années pour notre pays. Et c'était un engouement vraiment national derrière toute l'équipe nationale. Et nous pensons vraiment que nous avons atteint un objectif. Reste maintenant à pouvoir, quantifier cela, c'est-à-dire en effectuant une belle prestation durant la compétition et nous espérons quand même arriver à un niveau de non-retour, je veux dire.
À quoi est dû ce succès de l'équipe de Mauritanie, à votre avis? Qu'est-ce qui a fait la différence et qui lui a permis de se qualifier pour la première fois cette année?
Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un travail en profondeur qui a été effectué par la fédération, parce que là aussi, il faut vraiment le dire. La fédération a déployé des moyens vraiment et surtout a fait connaître le sport à la population, parce que le sport, le football n'était pas, il n'y avait pas un engouement vraiment national du football. Mais on a remarqué que ces 2 dernières années, que le football quand même a été vraiment un sujet de discussion dans les salons Nouakchott. Et que vraiment que l'équipe nationale aussi a senti que vraiment il y avait vraiment un mouvement populaire derrière elle, et je pense que cela a permis à notre équipe vraiment d'arriver là où elle est aujourd'hui.
Et j'ai vu qu'effectivement c'était un sujet qui était pris au sérieux, parce que j'ai lu dans la presse qu'une opération avait été organisée, une levée de fonds pour financer la préparation de l'équipe pour la CAN. C'est une bonne idée selon vous?
Non, mais c'est extraordinaire, parce que c'est la première fois quand même qu'on assiste à un téléthon qui a pu mobiliser un fonds vraiment, vraiment énorme. C'est un élan de solidarité vis-à-vis de l'équipe nationale qui s'est jamais vu dans aucun autre domaine. Et donc, je pense que vraiment, même l'idée de ce téléthon permettra aussi à notre équipe nationale de savoir qu'elle a une population, qu'elle a des supporters derrière elle. Et cela lui donnera, j'espère bien, un coup de pouce durant la compétition. Et pour ma part, moi personnellement, je me dis que si on arrive à sortir des poules, vraiment, que pour moi personnellement, la coupe est en Mauritanie.
Ce soutien en tout cas qui permettra peut-être de faire la différence. Merci beaucoup Abou d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très bonne journée à Nouakchott. On va accueillir un dernier auditeur maintenant. Jean-Lucien, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Yaoundé, le Cameroun qualifié. Est-ce que vous pensez que l'équipe est à la hauteur? Qu'est-ce que vous avez pensé de son parcours en phase éliminatoire?
Non, moi je pense que le Cameroun a fait un très bon parcours. Surtout que vous savez que le Cameroun était qualifié d'office en tant qu'organisateur, pays pressenti pour l'organisation de la CAN 2019. Mais avec le changement qui est survenu, c'est-à-dire que le Cameroun n'était plus organisateur, il fallait se qualifier sur le terrain. Et moi je pense que le Cameroun l'a fait de façon brillante, parce que au début, l'entraîneur a fait des équipes, a testé plutôt des équipes, parce qu'il se cherchait un petit peu. Mais vous avez vu que malgré cette situation, l'équipe a quand même réussi à se qualifier. Bon, maintenant, les gens ont présenté les Comores au dernier match comme étant un épouvantail. Bon, moi, je dis que c'était un peu pour faire monter la mayonnaise. Le Cameroun était une marche très, très au-delà, hors de portée des Comores. Et la victoire de dimanche dernier, de samedi dernier, n'a pas été une surprise pour moi.
Alors, je vous lis le commentaire... Jean-Lucien, je vous lis le commentaire de Pierre qui se trouve à Douala, qui nous a écrit sur WhatsApp et qui nous dit que les chances du Cameroun dépendent du sérieux avec lequel ce pays se prépara. Il dit du sérieux, il en faudra beaucoup au Cameroun qui néglige parfois l'aspect préparatoire et organisationnel. Est-ce que vous partagez cet avis, Jean-Lucien?
Ah oui, ça c'est juste. En fait, le problème qu'on a chez nous, c'est pas le problème des talents. On les a les talents, mais le problème c'est l'encadrement, le sérieux et l'organisation. C'est-à-dire la préparation de l'équipe. Chaque fois qu'on a mis du sérieux dans ces choses-là, on a toujours eu de très bons résultats. Bon, maintenant, je pense qu'on a deux très bons professionnels à la tête de l'équipe, les 2 entraîneurs, et qui s'entourent au fil des jours d'un encadrement, je pense, qui est à la hauteur. Parce que je vois un petit peu les anciennes gloires du football camerounais qui reviennent à l'encadrement. Et ça augure de très bonnes choses.
Plutôt bon signe donc pour la CAN qui commencera en juin. Merci beaucoup Jean-Lucien, merci à tous d'avoir participé à l'émission, d'avoir partagé vos sentiments et vos pronostics pour la CAN. Prochaine étape, le 12 avril, ce sera le tirage au sort pour la phase finale. Très bonne journée sur RFI.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA.
Dans 10 minutes, priorité santé avec Caroline Parc.